Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La conquête de la Lune par Neil Armstrong est au cœur de First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Dans un instant, rencontre avec le réalisateur et son acteur, signé Stéphane Boutsock. L'auteur à succès Christian Jacques est de retour au roman égyptien avec un livre intitulé Pharaon. À suivre ses confidences au micro de Bernard Lehu. Une première en France depuis 1953, une exposition entièrement consacrée au cubisme. Ce panorama complet de l'un des mouvements fondateurs de la moderne sera à découvrir dès mercredi à Paris au Centre Pompidou. Nous ferons notre visite guidée en avant-première avec Sophie Orange et rendez-vous au 3210 pour remporter des entrées et des catalogues de l'exposition. Et puis à la télévision ce soir, Ils ont échangé mon enfant, c'est un téléfilm inédit sur TF1 à 21h avec Sonia Roland. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Deux ans après le triomphe mondial de La La Land, le réalisateur Damien Chazelle retrouve son acteur Ryan Gosling pour First Man qui sort donc mercredi prochain. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bousson. À tous.
Cette fois, pas de comédie musicale ou de danse, hein, mais bien l'épopée tout à fait de la conquête de la Lune par Neil Armstrong.
Oui, 1962-1969, 8 années qui ont changé l'histoire des premiers essais au fameux petit pas pour l'homme, grand bond pour l'humanité. Le film retrace en effet la genèse de la mission Apollo 11 qui emmena Armstrong et ses coéquipiers Buzz Aldrin et Michael Collins se poser dans le cratère de la mer de la tranquillité à 385 000 km de la Terre. Damien Chazelle signe un film dense, somptueux, qui est à la fois un grand spectacle et une fresque intimiste. On y découvre la personnalité de Neil Armstrong, un taiseux, taciturne, têtu, marqué par la mort de sa fille, alors qu'il fait déjà partie du programme Apollo. Damien Chazelle.
Je crois que c'est un homme qui s'est construit à partir de ses failles et de son deuil. Il ne fait pas partie de ses icônes naturelles. Ce n'est pas ce que l'on appelle un héros américain traditionnel. C'était juste un être humain, vulnérable, faillible. Mais dans le même temps, Neil avait quelque chose de spécial dans son comportement, dans sa vision des choses. Ça se voyait dans ses yeux. Et Ryan est un acteur qui sait traduire ça à l'écran de manière incroyable, même sans parler d'un regard, d'un coup d'œil. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ce personnage.
Et c'est Ryan Gosling qui incarne l'astronaute.
Ouais, plus minéral que jamais, la star de La La Land et de Drive a endossé avec respect, appréhension, la combinaison de ce pionnier de l'espace, découvrant, durant le tournage, les conditions dans lesquelles le véritable Armstrong s'est lancé à l'assaut de l'astromort.
C'est difficile de traduire combien ces machines étaient dangereuses et extrêmes. J'ai vu ces capsules Apollo, j'ai visité la NASA avant de m'asseoir dans ces engins très fidèlement reconstruits pour le film. Avec dans l'oreille des astronautes qui avaient réellement volé dedans, qui me parlaient et me conseillaient durant les scènes. C'était assez surréaliste et au final, c'est une opportunité que j'ai encore un peu de mal à réaliser.
Et alors, je peux vous dire que dans votre fauteuil de cinéma, vous ressentirez vous aussi les sensations de l'équipage d'Apollo 11, tant Damien Chazelle a soigné ses effets, ses décors et la reconstitution du vol de juillet 69.
Je voulais que le film tout entier reflète ce que ça fait de monter dans ces engins. Donc quand nous avons construit ces vaisseaux, l'idée était de vous faire ressentir la claustrophobie en jouant sur les sons, les choses que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, en plaçant le spectateur en totale immersion. Il devait avoir l'impression de décoller puis de flotter dans l'espace. Je tenais beaucoup à cela, ce côté expérimental, que vous ayez le sentiment de porter la combinaison d'Armstrong, d'être dans l'espace puis sur la Lune et enfin d'en revenir. Et pour vraiment profiter du voyage, il faut être dans une salle de cinéma face à un écran géant cerné par le son.
Alors tout ça nous renvoie évidemment à notre propre histoire avec la Lune, cette fascination qui remonte à la nuit des temps quand les premiers hommes ont levé leurs yeux vers cette boule grise perchée dans le ciel.
Il n'y a pas d'histoire plus épique à raconter que celle de la conquête de la Lune par l'espèce humaine. Cette aventure cosmique a été possible à partir de machines fabriquées à la main, des vaisseaux improbables assemblés par des rivets et des câbles pilotés par des hommes comme Neil, qui n'était qu'un être humain. Et j'ai parlé à des astronautes qui ont marché sur la Lune et ils m'ont tous dit que c'était le moment où ils avaient été le plus lucides dans leur vie. Comme un shoot d'adrénaline au cœur d'un rêve éveillé, ils percevaient tout, entendaient tout comme jamais, une sorte d'état cristallin, même à des centaines de milliers de kilomètres.
La dernière demi-heure du film consacrée évidemment à l'alunissage est tout simplement époustouflante, bercée par ce thème musical grandiose signé Justin Hurwitz. C'est le compositeur fétiche de Chazelle, celui de La La Land donc. First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Claire Foy, l'un des événements ciné de cet automne, d'ores et déjà prétendant aux Oscars. Alors le film a démarré moyen aux États-Unis ce week-end. Vous le verrez, vous, mercredi au cinéma.
Merci beaucoup Stéphane. Dans un instant, la télévision, les audiences et les programmes de ce soir avec Isabelle Morini-Bosque. Restez avec nous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous parlons maintenant télévision en commençant avec l'audience du week-end et Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien bon démarrage de The Voice Kids en tête vendredi devant la rediff des Petits Meurtres sur la 2. 4 300 000 téléspectateurs contre 3 800 000 en 2017. Donc il y a une hausse. Samedi, en revanche, c'est le Polar de l'Artois, Meurtres en Haute-Savoie, qui l'emporte de quelques 150 000 fanats devant Danse avec les Tsars, qui reste toutefois constant avec quasi 4 600 000 fidèles. Moins d'1 700 000 curieux, en revanche, devant le show un peu alambiqué de Jean-Paul Gaultier sur la 2, qui passe derrière M6. Quant à hier, le super chondriaque Danny Boone rassemble quasiment 1 million de personnes de plus sur la 1 que 007 et son spectre sur la 2, 4 800 000 contre 3 900 000.
Alors, côté programme, on retrouve évidemment l'amour dans le pré ce soir sur M6.
Oui, avec par exemple cet agriculteur gâté par l'une de ses prétendantes.
Mais chaque jour, tu m'offres un cadeau ?
Voilà, parce que j'ai vu que t'aimais bien les petits cadeaux.
C'est pour ça que ta valise pesait 30 tonnes.
Voilà.
Elle a beau lui apporter des cadeaux, il arrive à lui de penser qu'elle n'en est pas un.
Bon, alors les vêtements, c'est aussi ce soir sur TF1. On a échangé mon enfant.
Oui, avec un film de télévision très réussi, inspiré d'une histoire vraie. Le drame vécu par une mère découvrant un beau matin que sa fille n'est pas sa fille. Tout commence par une demande d'ADN, de recherche d'ADN du père biologique de la fillette. Il est persuadé qu'il n'est pas le père, que sa femme le trompait et qu'elle veut lui extorquer une pension alimentaire. Or, chez le médecin, stupeur.
Et vous n'êtes pas sa mère non plus. Les tests ADN sont formels. Manon n'est ni votre fille, ni celle de David. Alors, vous pensez bien que j'ai rappelé le labo pour avoir confirmation, mais ils sont formels.
C'est le début d'une période confuse, marquée par le contact avec l'autre famille, l'autre enfant, et par l'action de services sociaux maladroits. Un commissaire, lui, se montre humain, c'est vers lui que notre mère Courage, jouée par Julie Debona, se tourne.
On a retrouvé l'infirmière qui a échangé vos bébés.
J'espère qu'elle va prendre cher celle-là. Quoi ?
Ben, il n'y aura pas de procès. Le juge a décidé de ne pas la poursuivre.
C'est une blague.
Non, à l'époque, elle était en dépression, elle buvait énormément. Pour le juge, elle a commis une erreur, mais sans chercher à vous nuire. C'est la clinique qui aurait dû l'empêcher de travailler.
Alors elle a échangé nos bébés, bousillé notre vie, et c'est pas de sa faute ? Alors que moi, je dois me justifier de la façon dont je vis à une assistante sociale mal baisée ?
Sophie.
Voilà, elle attend un autre bébé et on lui fait en plus donc un enfant dans le dos. C'est une très belle fiction avec un cadeau bonus, le bel Agustin Galliana et Sonia Roland qui jouent l'autre maman. On signale pour finir sur Teva une soirée efficace entièrement expliquée dans le titre. Harcèlement sexuel, l'année qui a tout changé. Teva nous montre les dessous du scandale de l'affaire Weinstein, des dessous pas très propres, et révèle où on en est un an après. Et ça, c'est donc sur Teva.
Isabelle Morini-Bosque. Bernard Lehu, bonjour.
Salut à ta face.
Oula.
C'est comme ça qu'on disait bonjour dans l'Égypte antique.
Oui. Bah voilà. Du haut de ces pyramides de succès, Christian Jacques nous contemple et surtout nous offre son nouveau roman consacré, enfin nous offre, non, il est encore payant, consacré à l'Égypte ancienne, tout simplement titré Pharaon.
Oui, c'était figuré, j'entends bien, n'est-ce pas ? Mais oui, parce que
21,90€.
Voilà. Et Christian Jacques nous raconte l'histoire de Thoutmose III, souverain exceptionnel. Il est en effet le premier roi égyptien que son peuple a appelé Pharaon. Et nous sommes vers 1500 à peu près avant Jésus-Christ à la louche. Hein. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait de Thoutmose un souverain hors norme pour Christian Jacques.
D'abord, je vais vous dire, c'est pour moi une sorte de mentor, d'ami, parce que c'est un pharaon écrivain. Au fond, il réalise, vous savez, ce grand rêve qu'était d'avoir un gouvernant philosophe.
Au départ, pourtant, ça n'est pas gagné. Quand Thoutmose se monte sur le trône, il n'a que 6 ans, et c'est la reine Hatchepsout qui va assurer la régence pendant de très longues années.
Voilà. Qui c'est Thoutmose III ? C'est un érudit, c'est un botaniste, c'est quelqu'un qui passe sa vie dans les bibliothèques, qui est passionné des anciens rituels. Donc il attend, et à la limite, le pouvoir...
Ne l'intéresse pas.
Ça n'intéresse pas beaucoup. Et puis... Hatshepsut meurt et on dit à Thoutmose III, eh ben maintenant il faut assumer. Alors les dignitaires sont extrêmement inquiets parce qu'il n'a absolument pas la carrure.
Eh bien si, figurez-vous, Thoutmose deviendra l'un des plus grands rois d'Égypte, un souverain non seulement philosophe, mais aussi guerrier qui repoussera toutes les attaques contre son pays. On le surnomme d'ailleurs aujourd'hui le Napoléon égyptien. Pas de grand roi sans grande reine. Satia, la fille de la lune, fut son épouse et surtout une vraie et très belle histoire d'amour.
Donc Satia a été, oui, un très très grand amour, puis une très grande reine, parce que une reine d'Égypte, c'est pas une first lady. Hein. Elle fait pas s'occuper que d'humanitaire.
Oui, vous l'expliquiez, c'est un vrai couple qui est au pouvoir.
Ah, totalement. Pharaon n'est pas un individu, c'est pas un autocrate, c'est un couple. Et beaucoup de reines ont été des femmes d'État absolument extraordinaires. Et alors, pour les générations futures, moi je suis trop vieux maintenant, mais la tombe de la reine Satia n'a pas encore été découverte. Où est-elle ?
Alors, bah oui.
Suspense. Et donc, un prochain livre à venir. Alors, je lis, mon bon Bernard, roman sur la couverture de Pharaon.
Vous lisez très bien.
Voilà, le nouveau Christian Jacques. Quelle est la part qui relève en fait de la fiction dans son évocation du règne de Thoutmôtse III ?
Eh bien, des personnages hauts en couleur, comme ce duo que connaissent bien maintenant ses lecteurs, puisqu'il revient de livre en livre. Le vieux, ça c'est l'incarnation de la sagesse populaire, et son âne, Vent du Nord.
On lui doit tout à l'âne en Égypte. Il a tout fait, l'âne. Ce sont ces petits grisons absolument admirables, d'une intelligence absolument incroyable, qui ont assuré le transport des grains, des nourritures. Sans l'âne, on n'aurait pas fait grand-chose. Et alors, là, je me suis beaucoup amusé. Bon, bah, tout le monde le sait, c'est Vent du Nord, il est voyant. Il a son langage, c'est-à-dire que si on lui pose une question, si l'oreille droite se lève, c'est oui, si l'oreille gauche se lève, c'est non. Et le vieux peste toujours que cet animal ait toujours raison. Et alors, écoutez, j'ai eu une grande joie dans ma vie, il y a eu un livre officiel des ânes célèbres qui est paru, donc avec l'âne de Stevenson et puis tant d'autres, et Vent du Nord est là, comme s'il avait toujours vécu. Mais
ça y est, c'est votre Nobel à vous.
Voilà, c'est mon Nobel à moi. Il est répertorié, maintenant c'est formidable.
Alors la passion de Christian Jacques pour l'Égypte est visiblement communicative. Ses livres sont aujourd'hui traduits dans une trentaine de langues.
Hein. Oui, mais alors je lui ai demandé justement comment est née cette passion pour les pharaons et les pyramides.
Un événement totalement fondateur que je dois d'ailleurs, au fond, à un livre et un libraire. À 13 ans, j'ai eu de l'argent de poche pour aller acheter un livre. Je suis allé chez mon libraire. Il m'a dit, écoutez, là, il y a trois gros livres. Alors, c'était vraiment trois gros livres. Hein. J'avais du mal à les porter. C'était des 400-500 pages reliées, illustrées. Histoire de l'Égypte ancienne. Est-ce que ça vous intéresse ? Bon, je dis, oui, je les achète, je les prends. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous rentrez dans un livre dont vous ne sortirez plus jamais. Je suis plongé là-dedans. Et puis voilà, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je suis chez moi.
J'imagine que vous n'avez qu'une hâte, c'est d'aller sur place.
Ah oui, ça c'est
le premier voyage.
17 ans, voyage de noces. Voilà, c'était. Nos parents nous disent, comme toujours, vous, est-ce que vous voulez aller à Venise ? J'ai dit, non, je préférerais le Caire et Luxor. Très, très exotique. Il n'y avait pas vraiment énormément de monde. Et puis là, évidemment, de voir en vrai ce que j'avais vu en photo, c'était extraordinaire. Oui. Et vous savez, à chaque fois, on va prendre un monument que tout le monde croit connaître, qui est la Grande Pyramide. Je ne sais pas combien de fois j'y suis allé, je n'ai pas compté. Et à chaque fois, c'est pas de l'émerveillement, c'est encore mieux que ça. Plus vous connaissez quelque chose, plus vous l'aimez, je crois. Enfin, moi, c'est ma façon de vivre. C'est ce que je dis toujours à mon épouse, c'est Agatha Christie qui a dit ça. Si vous êtes une femme, épousez un archéologue. Plus vous vieillirez, plus il vous aimera. Voilà. Et c'est vrai.
Formule célèbre d'Agatha Christie. Christian Jacques, passionné d'Égypte, on l'a entendu, et amoureux de sa femme, publie chez XO Pharaon, ou l'incroyable histoire de Thoutmôtse III, le roi philosophe et guerrier qui apporta l'une des plus grandes périodes de paix et de prospérité sur les rives du Nil. L'entretien complet, si ça vous intéresse, de Christian Jacques est à retrouver sur RTL.fr.
Et dans un instant, à fond dans le cubisme, au Centre Pompidou avec Sophie Orange.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Le cubisme à l'honneur du Centre Pompidou à partir de mercredi. Cette grande rétrospective donne un nouveau visage en fait à ce mouvement qui a révolutionné l'histoire de l'art.
En mettant à mal un certain nombre d'idées reçues. Déjà quand on pense cubisme, on pense tout de suite à Picasso, évidemment, et ses célèbres demoiselles d'Avignon en 1907. Alors bien sûr, vous verrez de superbes tableaux de Picasso et de Georges Braque, son complice dans cette révolution artistique. Mais il y a beaucoup d'autres artistes parmi les 300 œuvres présentées. Chagall, Picabia, Duchamp, Brancusi, Sonia et Robert Delaunay ou Fernand Léger. Deuxième idée reçue, le cubisme est monochrome. C'est vrai que le brun, l'ocre, le gris sont partout, mais la couleur apparaît vers 1911 avec les Delaunay notamment. Et enfin, le cubisme, ce n'est pas que de la peinture, c'est aussi de la poésie, de la littérature et de la sculpture. La première sculpture cubiste de Picasso, Tête de Fernande en 1907, est magnifique et je vous conseille vraiment de lui tourner autour. Vous admirerez d'ailleurs une salle entière avec une série de têtes tout aussi superbes les unes que les autres. Vous l'aurez compris, il n'y a pas un cubisme, mais des cubismes. Ça fait un peu le son de l'histoire de l'art.
Mais je vous en prie.
Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le cubisme donne un coup de fouet à la vision académique qui prévalait jusqu'alors. Pour Ariane Coulondre, l'une des commissaires de l'exposition, c'est un nouveau langage.
On ne peut plus représenter le monde depuis un point de vue fixe. par la fragmentation des formes, par le basculement des points de vue, l'éclatement de la perspective, les jeux aussi sur des couleurs ou des matériaux inattendus vont inventer une nouvelle manière de représenter le monde.
Et cette déconstruction commence doucement, si j'ose dire, avec ce magnifique portrait de Gertrude Stein signé Picasso, où l'on voit le visage inspiré d'un masque africain. Mais les têtes, les portraits vont petit à petit se transformer complètement.
Le nez devient un triangle, les yeux en amande sont écarquillés, les formes sont simplifiées, comme taillées à la serpe. Il y a vraiment une sauvagerie dans la représentation. Et puis, petit à petit, Picasso et Braque vont aller de plus en plus loin, creuser le visage, tourner autour, le faire éclater en facettes, jusqu'à, en quelque sorte, le dissoudre complètement, pratiquement jusqu'à l'abstraction.
Même chose avec cette incroyable série d'instruments de musique de Braque et Picasso, des pianos, des violons, des clarinettes, des guitares fragmentées, déstructurées. Seul indice pour reconnaître une guitare, trois traits parallèles qui font penser aux cordes. Une volute, c'est l'ouïe d'un violon, tel un rébus, le tableau invite le spectateur en fait à reconstituer l'instrument de musique.
Alors vous citez Braque et Picasso, ce sont vraiment eux qui ont inventé le cubisme.
Ah oui, ce sont eux, hein, tels une cordée en montagne, comme le disait Braque, qui ont pris des chemins de traverse jamais explorés. Picasso et Braque ont avancé ensemble, une relation incroyable que va nous décrire Christian Briand, conservateur au Centre Pompidou.
Braque et Picasso ont vraiment travaillé en commun dans des relations d'amitié tout à fait exceptionnelles, de curiosité mutuelle pour leurs travaux en cours. L'un inventait, l'autre s'appropriait, les rôles parfois s'inversaient. Dans l'histoire de l'art, c'est vraiment un cas assez unique, hein, d'invention en commun. Ces deux artistes travaillent dans le secret de leurs ateliers, sont peu montrés, et qui vont faire du cubisme un mouvement qui, encore aujourd'hui, compte parmi les mouvements essentiels du XXe siècle.
Et là, on vient d'entendre quelque chose de très important. 1907-1908, ils travaillaient dans le secret de leurs ateliers. Mm-hmm. Cette nouvelle façon de créer, en fait, c'était vraiment pour les initiés, pas pour le grand public. C'est Henri Matisse qui, le premier, parle de petits cubes en 1908, en voyant des paysages de l'Estac, de Braque. Et c'est seulement en 1911 que le mot cubisme apparaît dans la bouche d'un critique d'art très connu. Cubisme, à l'époque, c'est péjoratif. Cette peinture est jugée froide, géométrique et cérébrale.
La critique se déchaîne. Les journaux sont remplis de descriptions moqueuses. Il y a des caricatures dans les journaux hostiles à cet art nouveau. Les débats s'enflamment à la fin de l'année 1912 jusqu'à l'Assemblée nationale où certains députés vont demander l'interdiction d'exposer pour les artistes cubistes considérés comme des fumistes qui se moquent du grand art.
Le regard a évidemment beaucoup changé. Ce nouveau langage va révolutionner l'histoire de l'art. Le cubisme va donner naissance indirectement à l'abstraction, au surréalisme. Il va s'éteindre en 1917 à cause de la Première Guerre mondiale. Braque est blessé et Picasso part explorer de nouvelles voies. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci Sophie. Cubisme est donc à découvrir à partir de mercredi au Centre Pompidou à Paris. RTL, partenaire de cette exposition, vous fait un très beau cadeau ce matin, hein, en vous offrant deux entrées plus un catalogue. Vous êtes 10 auditeurs à pouvoir en bénéficier. Vous devez répondre à la question suivante. Qui sont les inventeurs du cubisme? Faites vite, vous nous appelez au 3210. La réponse et le cadeau, c'est juste après la publicité. Je répète la question. Qui sont les inventeurs du cubisme? Allez, 3210, tout de suite.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Qui sont les inventeurs du cubisme? Je vous pose la question, Sophie Orange.
Pablo Picasso et Georges Braque.
Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné des entrées pour l'expo qui commence, je le rappelle, mercredi au Centre Pompidou. Et en plus, le catalogue est absolument magnifique.
Magnifique, 300 pages, vous saurez tout sur le cubisme.
En juger. Merci à toute l'équipe et rendez-vous donc demain.